Bonjour à tous. Bienvenue sur Séoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti!
Bonjour Sonia.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Merci, moi aussi, je viens juste de rentrer.
Oui, donc là, on peut le préciser, effectivement, on enregistre cet épisode donc, le 15 avril à 22h24 exactement. Et toi, tu viens de rentrer du travail.
Voilà, c'est ça.
Ok, ben, écoute, merci en tout cas d'accepter mon invitation pour cet épisode. Et ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien. Est-ce que tu veux te présenter en deux ou trois phrases?
Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très enchantée. En fait, moi, je suis Sonia Glaser, ou en allemand, on dit Sonia Gläser. Et oui, comme je viens de le dire, je suis allemande, moitié coréenne. Je suis née à Berlin. J'ai fait mes études en France. Et après mes études, je suis directement allée en Corée. Et je suis en Corée depuis 2003, je pense.
2003.
Oui, c'est ça. Ah oui. Oui.
D'accord. Ben, on reviendra sur ton parcours alors effectivement après. Mais donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Oh, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est assez vague, je dirais. Alors, bon, je continue à travailler dans la même entreprise où je travaille depuis 2004. Et en fait, je prends beaucoup de temps là en ce moment pour moi à cause de la pandémie. Mais sinon, auparavant, j'avais fait beaucoup d'activités événementielles sous une communauté non-profit qui s'appelle Hippie Korea. Donc, je me suis bien occupée de mon temps libre. Et voilà, c'est peut-être ça ce que je peux dire jusqu'à
ce point. Oui. Donc, l'entreprise, je ne crois pas que tu l'as citée, c'est Samsung, pour laquelle tu travailles depuis 2004, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. J'aime pas trop dire le nom de mon employeur parce que quand même, parfois, on a un petit peu de restriction de parler sur notre emploi. Donc, mais oui, c'est Samsung, oui.
D'accord. Ah oui, parce que moi, j'avais plein de questions alors sur Samsung, mais on verra lesquelles on peut aborder parce qu'effectivement, tu dois être une des plus anciennes employées étrangères dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler de ton poste actuel ou ça t'embête?
Oui, bien évidemment, parce que sur LinkedIn et tout, on peut le voir.
Oui, on peut
alors là, en ce moment, je travaille auprès de Mobile Business, le Muson Saopu dans le domaine de B2B, Global and Overseas Market. Et mon titre est Senior Professional, so Senior Pro, ce qui est équivalent à cadre senior. Mais senior, oui, c'est ça. Donc, en fait, D'accord. Moi, je suis en charge de l'administration et support régional ou overseas. De l'Amérique du Nord, Amérique latine et Europe pour tout le contenu d'entraînement sur les mobiles B2B. Voilà, c'est ça.
D'accord. Et donc, effectivement, depuis 2004 dans l'entreprise, donc j'imagine que la question si tu aimes Samsung ou pas ne se pose pas vraiment. Mais donc, on ne la posera pas.
Si on regarde sur mon Facebook, on peut voir plein de commentaires que j'ai laissés durant ces dernières années auprès de ma boîte. Mais oui, je ne vais pas commenter plus.
Oui, non, j'imagine que comme dans toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Mais quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, j'ai l'impression que tu as beaucoup évolué dans l'entreprise. Il y a eu un petit hiatus de quelques années, non? Tu as arrêté 2 ou 3 ans ou c'est juste que c'est pas tout n'est pas indiqué sur le profil?
Oh oui, non, en fait, j'ai travaillé continuellement depuis 2004. C'est juste en 2017, j'ai pris une année sabbaticale. C'est une opportunité que Samsung a offert depuis 2015. Et donc, c'était le seul break, je dirais, que j'ai pris. Sinon, je ne sais pas, il y a peut-être un problème sur LinkedIn. Je n'arrive pas à bien ajuster mon profil LinkedIn. C'est pour cela qu'on voit peut-être un break ou une pause entre-temps. Mais
D'accord.
non.
Non,
C'est
c'était sans
ça.
discontinuer depuis 2004, donc à des postes différents où j'imagine que tu es monté en grade et tu es monté en compétences, c'est ça?
Ah oui, j'ai pas mal bougé auprès de la boîte. Alors en fait, en 2004, j'ai commencé auprès des produits électroménagers, donc Digital Appliances. J'étais en charge de marketing communication et tout ce qui est publicité. Après, j'étais en charge de relations publiques. J'ai eu après une opportunité d'aller dans une task force pendant 6 mois au sein des ressources humaines corporate. Et donc, c'était la première fois que c'était, je pense, en 2010 jusqu'à 2011. J'ai passé 6 mois dans ce task force à Yongin, dans le corporate HR, en charge de l'entraînement des nouveaux employés. Et après, j'ai changé mon poste. Je suis retournée à Electronics en 2012 ou 11, et j'ai joint le Human Resources Development Center for Learning and Development. Pardon, c'est tout en anglais là.
Pas de problème.
Et j'ai fait ressources humaines, entraînement des nouveaux employés de Samsung Electronics. Et en 2015, je dirais, j'ai joint le mobile B2B, la division de mobile B2B. Et donc, j'ai fait Professional Development for Education. Et après, donc, le Regional Support pour le contenu de tout ce qui est mobile B2B, l'entraînement online, offline et tout. Voilà, c'est à peu près ça ce que j'ai fait auprès de ma boîte.
D'accord, ouais, sur 17 ans de carrière, hein, c'est ça? Pour l'instant,
Oui.
chez Samsung. Ben non, mais c'est impressionnant parce que c'est vrai que donc je rencontre des entrepreneurs, des professionnels, des expats, mais peu ont cette longévité, à la fois en Corée et à la fois chez un chaebol, en particulier Samsung. Bon, l'avantage, c'est qu'il paraît qu'il y a une grosse, quand on part, il y a une grosse severance pay qui est liée à son ancienneté. Donc, j'imagine que quand tu pars, tu vas partir avec un pactole monstrueux.
En fait, je peux dire tout est relative. Relative. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, je ne sais pas quelles autres histoires tu as entendues, mais c'est vrai que ça dépend aussi du poste. Je ne sais pas si tu as parlé à quelqu'un qui était peut-être déjà directeur. Donc, peut-être pour un directeur, le severance pay est déjà beaucoup plus haut que moi, parce que moi, je suis senior pro. Donc, j'en recadre. Alors, et moi aussi, je suis employée régulière. Donc, je ne suis pas sur contrat déterminé. J'ai un contrat indéterminé. Voilà.
Ah oui, toi,
Donc,
tu as un contrat local et qui est
voilà.
indéterminé, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Ouais, non, mais bien sûr, mais effectivement, c'était un peu une plaisanterie, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'expérience dans la même entreprise. Et donc, c'est souvent qu'on termine à 10h30. Est-ce que c'est vrai que le soir, est-ce que c'est vrai donc qu'on travaille beaucoup, beaucoup chez Samsung, ou alors ce sont des horaires flexibles? Comment ça se passe?
Alors, je dois dire que quand même, la culture ou la vie au sein de la boîte a quand même beaucoup, beaucoup changé.
Ouais.
Et en général, je peux dire que quand même, les conditions pour un employé se sont beaucoup améliorées auprès de cette boîte, parce que cette entreprise, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, quand même, on faisait beaucoup, beaucoup plus d'heures supplémentaires, et y inclut le travail durant le week-end, c'était quasiment obligatoire. Et là, depuis peut-être depuis 2016, peut-être, oui, à peu près ça, 2016, on a les heures flexibles. Donc, en ce moment-là, je vais au travail parfois à 10h, 11h ou parfois à midi. Je peux aussi rentrer plus tôt. Et donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux en ce moment. Il faut juste que je fasse attention, que en fait, je fais mes heures obligatoires. Et après, il faut aussi que je fasse attention là maintenant de ne pas faire trop d'heures supplémentaires parce qu'il y a une loi d'emploi en Corée qui a, comment est-ce qu'on dit, coupé les heures supplémentaires.
Oui.
Donc, en fait, il faut que je fasse attention que je ne fais pas trop d'heures supplémentaires pendant un mois. Sinon, je vais recevoir une genre d'amende par les ressources humaines ou quelqu'un pour me dire de faire attention, de ne pas faire trop d'heures supplémentaires. Donc, je dois vraiment dire que là maintenant, c'est vraiment formidable, je dirais presque, de travailler pour cette boîte, surtout avec ces heures flexibles qu'on peut prendre. Oui.
D'accord. En gros, ça s'est bien amélioré sur les conditions de travail par rapport à ce que ça a pu être avant, et puis la flexibilité, ouais, qui est rentrée en Corée à aménager tout ça. Donc depuis la même époque, tu habites sur Suwon, alors c'est ça?
Oui, c'est ça depuis 2004.
Oui, donc pareil, donc tu dois bien connaître la ville et avoir vu beaucoup de changements aussi dans le développement de Suwon.
Oui, c'est clair, oui.
Par exemple, donc est-ce que c'est une ville qui s'est développée en termes de population, ou c'était déjà assez gros à l'époque? En termes d'infrastructure, est-ce que c'est mieux desservi qu'avant?
Oh, en termes de population, je ne suis pas trop sûre. Je suppose qu'il n'y a pas trop de changements en termes de population, mais l'infrastructure a beaucoup changé, hein. Parce qu'en 2004, quand je suis venue, j'ai vécu à Yongtong et j'habite toujours en fait dans l'arrondissement peut-être de Yongtong. Mais auparavant, il n'y avait pas de métro qui nous a amenés directement à Séoul, donc il fallait tout le temps prendre le bus pour aller de Suwon, Yongtong, à Gangnam ou n'importe où à Séoul. Mais je pense qu'ils ont travaillé presque 10 ans pour construire le métro, le Bundang Line. Et voilà, donc c'est... Oui, ça doit être depuis 2013, 14, quelque chose comme ça, que la Bundang Line a ouvert avec une station directement ici à Yongtong. Et là maintenant, j'habite dans un autre coin de Yongtong où il y a carrément le métro devant ma porte. Donc, c'est très confortable d'aller à Séoul ou autre part avec
Combien de
le
temps, par
métro.
exemple, pour aller à Gangnam? Combien de temps?
Oh, ça dépend, mais pour Gangnam, je dirais peut-être avec le métro, ça me prend 1 heure. Mais parfois, avec le bus, s'il n'y a pas de trafic, ça prend 30 minutes, peut-être. Oui, en bus, carrément de chez moi jusqu'à Gangnam Station. Voilà, c'est ça. Donc, ça dépend toujours quand il pleut. Ou sinon, le vendredi soir, je préfère prendre le métro parce que je sais qu'il n'y a pas de trafic. mais peut-être ça dure un peu plus longtemps. Comme je dis, ça dure 1 heure. Mais sinon, si je prends, je ne sais pas, si je pars durant peut-être un jour de travail, durant les heures de travail, si je dois aller à Séoul, je prends le bus, parce que comme ça, c'est peut-être le plus rapide, oui,
Donc,
d'aller à Séoul avec le bus.
et justement, quand on habite à Suwon, est-ce qu'on va souvent à Séoul, ou est-ce qu'on trouve tout ce qu'on veut à Suwon, et finalement on n'a pas besoin d'aller trop souvent dans la capitale?
À vrai dire, bon, moi je viens de Berlin et donc moi je voulais tout le temps vivre à Séoul, surtout je dirais de 2004 quand je suis venue ici à Suwon jusqu'à 2000, 12, peut-être. C'était durant ces temps-là que chaque week-end, je voulais faire la fête. J'ai fait la fête vendredi et samedi soir. Et je voulais faire un brunch le dimanche. Alors, ici à Suwon, je pensais que c'était. Il y avait pas. C'était un petit peu trop ennuyeux, peut-être. Donc, je voulais tellement vivre à Séoul durant ce temps. Mais bon, là maintenant, c'est vrai que là maintenant, après 17 ans, ici, je me dis, ah, quand même, c'est pas mal de vivre à Suwon. C'est moins busy. Il y a quand même, je veux dire, des espaces verts ici. Il y a la forteresse qui est la forteresse, la Suwon Hwasong Fortress et le palais qui est UNESCO World Heritage. Il y a tous mes petits. Magasin de thé, de porcelaine autour de la forteresse. Il y a plein de petites choses ici à Suwon qui sont vraiment très sympas. Donc, je pense que surtout durant ces dernières 10 dernières années, quand même, ça a beaucoup amélioré. Et je pense que là maintenant, c'est vraiment pas la peine d'aller à Séoul, surtout parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas encore vues ici à Suwon. Il y a tellement de nouveaux petits magasins qui changent fréquemment, qui sont tous adorables. Si on veut faire la fête, on peut le faire à Suwon City Hall, Ingedong. Si on veut voir un UNESCO World Heritage, on peut aller à la forteresse qui est juste 30 minutes en bus ou taxi de ma maison. Le travail est juste à côté de mon appartement. Donc, si je marche, il me faut 20 minutes porte à porte, je dirais. Donc, c'est facile. Le matin, je prends ma bicyclette pour aller au travail ou sinon je marche. Et c'est ouvert. Là où je marche, c'est quoi ça? C'est un genre de parc. Donc, c'est très vert, c'est joli. On entend quand même un petit peu d'oiseaux. Et voilà. Et
Oui,
après tout,
oui.
il y a aussi tous les grands magasins qui sont juste à côté, comme le Emma Traders, et il y a même Costco qui est pas loin. Donc, je pense, je peux dire, il y a tout. Il y a tout
Oui,
ici à Suwon.
oui. Oui. Puis il faut dire à ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Suwon que c'est quand même une ville de plus d'un million d'habitants.
Ah oui.
Donc ça reste quand même une ville assez importante. Comme tu disais, on fait facilement 30 ou 40 minutes de taxi rien que pour traverser Suwon, de taxi ou de bus. C'est quand même une grande ville, quoi. Mais effectivement, bon, c'est pas la capitale avec tout ce qu'elle peut offrir. Donc justement, là, tu parles beaucoup de l'attractivité du tourisme de Suwon. Et donc on va en venir à ta deuxième activité. Tu parlais de Hippie Korea, c'est ça?
Oui, merci.
Mais je t'en
Oui,
prie, parce que visiblement tu es assez active là-dessus. J'en ai même entendu parler par des gens qui ont visité, je crois, la forteresse avec toi.
voilà. Merci.
Alors vas-y, dis-nous un peu ce que c'est Hippie Korea.
Oui, alors, une fois quand je commence à parler là-dessus, je n'arrête plus, hein. Ça va prendre
Je
4 heures.
t'arrêterai, je t'arrêterai.
Ok,
Il y a d'autres
je
choses dont je
suis.
veux parler, mais allons-y.
Oui, alors en fait, il faut savoir que moi, je suis moitié coréenne, ma mère est coréenne et donc j'ai le physique quand même assez asiatique, je dirais. Quand on me voit en Europe, on dit, ah, là, il y a une asiatique qui vient, et pourtant, je me sentais toujours allemande de l'intérieur. Donc, quand je suis venue en Corée, je me suis dit, je veux venir, pas forcément pour avec la priorité de travailler, mais plutôt à découvrir l'autre moitié de moi. En fait, le moitié coréen.
Ouais.
Alors, mon focus, où j'étais focalisée à trouver quand même des opportunités pour apprendre la culture coréenne, la langue, l'histoire, les coutumes, l'étiquette et tout. Et donc, je dis que le fait que je travaille pour une chaebol, c'est juste mon emploi, c'est pour me donner mon salaire. Mais ma passion et mon intérêt de vraiment venir en Corée, c'était de découvrir l'autre moitié de moi ou la source ethnique, si je peux le dire comme ça. Et donc, quand j'ai travaillé auprès de la Chaebol, il y avait quand même pas mal de problèmes que j'ai ressentis en travaillant avec des collègues, surtout coréens, parce que bon, les étrangers étaient en minorité. Et il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Et auparavant, là, en 2004 jusqu'en 2010, je pense que j'étais sous une forme de culture shock, un choc culturel. Et j'ai téléphoné à ma mère presque, oui, en fait, presque tous les jours, pour demander pourquoi est-ce que les Coréens ou mes collègues réagissent comme ci ou comme ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, il y avait beaucoup de conflits. Bien
D'accord.
évidemment, des conflits en direct.
Justement,
Et
puisque tu en parles, je me permets de t'interrompre, c'est juste puisque tu parles un petit peu justement de tes débuts en Corée, peut-être on pourrait commencer là-dessus, ça nous permettrait aussi de mieux comprendre, parce que visiblement, effectivement, tu as fait toute ta carrière en Corée, tu es venu ici juste après les études. Donc, qu'est-ce qui t'a fait venir si tôt? Est-ce que tu es arrivé avec le passeport et la langue ou pas? Enfin, comment ça s'est passé le départ en Corée?
Non, j'ai toujours mon passeport allemand. Mais et aussi je ne parle pas beaucoup le coréen, je pouvais un petit peu lire l'alphabet, mais sans plus. Je pense quand même, bon, je veux dire, en Allemagne, à Berlin, je me sens quand même allemand. Il n'y a personne qui me demandait, oh, tu viens d'où ou quelque chose, parce que je parle quand même allemand comme une Allemande, et on
Oui.
entend que je suis une berlinoise et tout, peut-être. Mais quand j'ai fait mes études en France, j'ai vécu à Pau, Aquitaine 64. Oui,
Oui,
voilà.
tu n'as pas pris l'accent de Pau.
Ah oui, c'est vrai. Parce que la maintenant, ça fait tellement longtemps, j'ai quasiment pas la possibilité de parler en français. Hein. Il faut que je le dise aussi. Hein. Donc, en fait, je pense que j'étais quand même confrontée à un genre de peut-être un problème d'identité. Quand j'étais en France, parce que en France, les amis français que j'ai faits, ils étaient tous intéressés par mon physique asiatique. Donc, ils voulaient tous savoir, alors, la Corée, c'est comment? Et tu peux cuisiner quelque chose de coréen? J'étais là, je suis désolée, mais non, je peux pas cuisiner quelque chose de coréen et je peux quand même cuisiner des choses allemandes, hein? Donc, mais les amis français, ils n'étaient pas très intéressés par mon côté allemand, parce qu'ils ont toujours dit, oh, les Boches, les Boches.
Alors, les Boches, peut-être pas, mais c'est vrai que la cuisine allemande n'est peut-être pas celle qui nous inspire le plus, disons-le comme ça. Il y a pire, il y a l'Angleterre, il y a pire. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, le goût des Français pour les cuisines asiatiques.
Voilà, et donc
D'accord.
durant ce temps-là, j'ai quand même j'ai réalisé que les gens, et surtout en France, que je suis perçue comme une Asiatique et pas comme une Allemande. Et après, je me
D'accord.
suis dit, si tout le monde pense que je suis Asiatique, parce qu'ils n'arrivaient pas parfois de dire coréen, mais quand même les Français, ils étaient assez bien, ou bon, je ne sais pas comment dire. C'est bien de dire, ah, t'es peut-être eurasienne, t'es peut-être coréenne et tout. Et j'étais là, oh, waouh, ils ont quand même l'œil, quoi. Et donc, durant ce temps-là, durant ces 2 ans que j'ai passé en France, à Pau, je me suis dit, si j'ai tellement l'air coréen ou asiatique et je connais rien sur la Corée, je ne sais pas parler, je ne sais pas cuisiner, je peux rien dire sur la Corée. Donc, ce n'est pas bien du tout. Je devrais quand même passer un an. Auparavant, je pensais un an, ça suffit. Je devrais quand même passer un an en Corée juste pour apprendre bah, la langue, la coutume, puis les coutumes et les habitudes et tout. Et après, je peux retourner et travailler en France parce que mon but était toujours de vivre et de travailler en France.
Ah
Et
d'accord,
j'avais
oui.
jamais,
Donc
jamais.
un an en Corée après les études. Tu pensais partir un an en Corée après les
Voilà.
études. Et
Et après, je suis restée. Mais c'était pas mon but de rester ici si longtemps. J'avais jamais pensé que je vais rester ici 17 ans. Parce que, comme je dis, je suis venue avec l'idée de rester un an, juste pour apprendre un petit peu la langue, les coutumes, pour être capable de dire quelque chose sur les Coréens et je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que j'ai quand même j'étais confrontée avec beaucoup, beaucoup de problèmes culturels. Je dirais que, comme je disais avant, que je ne comprenais pas où est la source des problèmes avec la communication, le comportement avec mes collègues, surtout. Et c'est en fait ce genre de conflit que j'ai expériencé à l'extérieur et aussi après à l'intérieur de moi avec mes pensées, mes réflexions. Je ne pouvais pas partir. Et c'est ça le problème. En fait, chaque année, je me suis dit, c'est la dernière année, c'est la dernière année et je vais finir, retourner en Europe et vivre une bonne vie, au moins avec des gens que je comprends et qui me comprennent aussi. Mais à chaque fois, le niveau de stress était tellement haut et les conflits, je veux dire, personne ne pouvait m'expliquer la source des conflits. Parce que ces sujets-là, c'était un sujet pour un expert de cross-culture. Oui, un expert de cross-culture. Parce
D'accord.
que des gens normaux, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, par exemple, là maintenant, dans une entreprise, dans une situation très compétitive, une majorité de Coréens va réagir comme ça avec un étranger dans l'équipe. Alors, c'est à cause de ce problème, je pense que quand même, ma vie ici en Corée était plutôt une bataille de. C'était toujours une bataille, je dirais. Mentalement, ou oui, comment est-ce qu'on dit? Oui, mentalement peut-être.
Une
Et.
bataille parce que une bataille dans la relation avec les collègues coréens, c'est ça?
Oui, et aussi une bataille avec moi-même parce que je voulais quand même comprendre ce qui s'est passé là en ce moment. Quand j'ai eu une argumentation avec un collègue qui m'ont méprimé, c'est ça?
Qui monte?
Je voulais comprendre pourquoi. Et il n'y
D'accord.
avait personne qui pouvait m'expliquer pourquoi cette situation est arrivée. Et ça m'a beaucoup occupée. Je voulais vraiment comprendre pourquoi cette situation est arrivée. Et qui avait tort? Est-ce que c'est moi qui avais tort avec mon comportement ou de ce que j'ai dit? Ou est-ce que c'est l'autre personne, disons, bien évidemment, le Coréen, qui a tort ou qui fait quelque chose qui n'est pas correct à mes idées?
D'accord. Quel a été le lien avec la création de Hippie Korea?
Oui, alors je suis désolée d'avoir parlé tellement de mes problèmes
Non,
avant, je
non, mais il
dirais.
n'y a pas de souci. Non, non.
Je dirais plutôt que c'était des. J'ai quand même expérimenté beaucoup de challenges, des challenges culturels. Et à force de, je veux dire, de ne pas pouvoir trouver une personne qui pouvait m'expliquer pourquoi certaines situations se sont arrivées comme ils se sont arrivées, je me sentais jamais satisfaite avec l'explication que j'ai entendue de mes amis. Soit les Coréens ou les étrangers ou ma mère ou n'importe. Alors je me suis dit, bon, c'est il y a quelque chose ici, je suis venue en Corée pour comprendre et je n'arrivais pas à comprendre. Alors je me suis dit, bon, on est tellement d'étrangers ici à Suwon, surtout avec notre entreprise et toutes les universités autour, plus tous les profs d'anglais qui sont ici à Yangtan. Je me suis dit, on est un vrai pool d'étrangers qui ont besoin de rencontrer un expert qui peut nous expliquer ce qui se passe ici en Corée. Pourquoi les Coréens réagissent comme ci ou comme ça? Et je me suis dit, ça doit quand même être basé à, je sais pas, à l'histoire ou la manière comment la Corée s'est développée, comment la société s'est développée. Alors je me suis dit, moi, si je veux attendre d'autres événements comme les présentations de Royal Asiatic Society, ça se passe toujours durant la semaine à Insadong, Bukchon. Donc, Ça fait un voyage de 2 heures à chaque fois. Donc, en fait, 4 heures sur la route juste pour atteindre une présentation de 1 heure et demie sur la culture coréenne. Je me suis dit, bon, on est tellement d'étrangers ici à Suwon, tout le monde ne va pas quitter son travail à l'heure pour atteindre une présentation au nord de Séoul. Mais quand même, il devrait y avoir une possibilité que je puisse appeler les experts, comme les professeurs, les spécialistes, de venir ici à Suwon, de nous rencontrer ici à Suwon et de nous donner des présentations sur l'histoire et le développement de la Corée afin de nous faire comprendre pourquoi les Coréens ont un comportement de bali-bali, c'est quoi les mots clés comme nunchi, han, chong, et des mots comme ça là qui sont très comment est-ce qu'on dit très importants ici dans la culture coréenne pour comprendre l'esprit des Coréens. Et donc je me suis dit bon, moi toute seule j'ai pas beaucoup de pouvoir appeler un professeur à me rencontrer pour me donner une présentation. Je me suis dit, on est plusieurs ici, donc je vais former une communauté. Et avec sous le nom d'une communauté, je vais aussi pouvoir, je sais pas, faire des applications pour du support par le gouvernement peut-être. Et je peux faire des coopérations. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais créer une communauté et je vais l'appeler Hippie Korea parce que je voulais pas trop que ça a l'air trop corporate. Donc, je voulais vraiment quelque chose de counter-corporate.
D'accord.
Oui, donc je me suis dit, allez, hippie, allez, on est tous des hippies là, on aime art, rencontrer, faire la fête, je ne sais pas, rencontrer des gens, faire la fête, la culture et tout. Et je voulais vraiment quelque chose peut se différencier de tout cet environnement corporate qu'on peut expérimenter chaque jour, 24 heures presque par jour, parce qu'on
D'accord.
habite juste à côté.
Mais donc le but là, c'était tu dis de faire venir des conférenciers, de mieux comprendre la culture et la psychologie coréenne, ou c'était du tourisme, ou c'était les deux, c'était quoi le but premier?
Alors, le but premier, c'est vraiment de comprendre tout, de comprendre la culture, le comportement, les problèmes des Coréens afin de mieux s'intégrer dans la société, afin de mieux travailler ensemble avec une équipe de Coréens. Parce que la plupart des étrangers ici, ils travaillent dans une équipe où ils sont le seul étranger et tous les autres sont des Coréens. Donc, en fait, on est toujours en minorité. Et je me suis dit, sûrement moi, je ne suis pas la seule à sentir qu'il y a des problèmes ici avec cette coopération avec les Coréens et qu'il nous faut vraiment un cours, un entraînement, un genre de induction course, comme on dit en anglais. A cultural induction course.
D'accord.
Et je me suis dit, seulement des présentations, c'est pas assez. Parce qu'il y a quand même des gens, après le travail, avec toutes ces heures supplémentaires qu'on a fait auparavant jusqu'à minuit, au-dessus de minuit et tout, les gens, ils sont tellement crevés le week-end qu'ils ont plus, je veux dire, l'intérêt de rester là devant un PC à écouter une présentation qui est peut-être très intéressante, mais quand même le ma samedi matin à 10 heures, pendant 2 heures, une présentation, c'est peut-être assez pour eux. Alors je
Ouais.
me suis dit, quand même, tous les intérêts que j'ai, moi, je pense que tout ce que je veux faire, moi, les autres, ils ont peut-être les mêmes intérêts. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux des présentations avec un contenu théorique qui m'explique le background sur l'histoire, le développement de la Corée, le IMF crisis ou n'importe quoi. Je veux aussi voir Je veux voir l'histoire. Ça veut dire, je veux avoir un spécialiste comme un professeur de tourisme qui peut nous guider et carrément faire sa présentation sur le lieu, à la forteresse, aux tombes de je ne sais pas qui ou quoi, à un temple. Voilà, alors on a fait les guided culture tours, walking tours. Et je voulais aussi faire du volunteering parce que je me suis dit, je veux quand même donner quelque chose au retour à la société. J'ai des compétences et je veux faire des rencontres avec des vrais citoyens de Suwon et pourquoi pas me donner une opportunité de faire du volunteering. Mais il n'y avait rien pour les étrangers auparavant. Alors, j'ai créé cette opportunité de faire du volunteering ou comment ça s'appelle, le nursing home de Suwon. Et voilà, et pendant des années, je pense, j'étais peut-être la seule qui a vraiment fait des opportunités de volunteering. Il est postulé sur social media, partout en anglais, pour que les étrangers puissent voir les opportunités et venir faire du volunteering. Et donc, on avait des gens qui sont venus de n'importe où juste pour faire du volunteering avec nous. C'était vraiment très étonnant.
Donc,
Voilà, donc.
tu proposais aux étrangers de venir faire, oui, du volontariat
Voilà.
dans des maisons de retraite, c'est ça?
Voilà, maison de retraite, voilà, c'est ça. Donc, on a fait en fait en tout 7 ans de volontariat dans une maison de retraite ici à Suwon, en faisant avec des grands-mères et des grands-pères des peintures de minois, folk painting.
Ah d'accord,
Voilà.
donc c'était sous l'égide de Hippie Korea,
Ah oui.
dans le sens où il y avait de la peinture, des activités un peu pour ces personnes, c'est ça?
Voilà, donc en fait, tout le contenu, tous les événements de Hippie Korea, c'était autour de la culture, de comprendre la culture, de comprendre les problèmes de société, de rencontrer des gens locaux. Et alors, le volunteering, je voulais faire une activité avec des seniors, mais je me suis dit, si j'amène les étrangers, ils veulent aussi apprendre quelque chose peut-être sur la culture. Alors, on va faire une activité ensemble, ça veut dire ensemble avec les étrangers et les grands-mères et les grands-pères, on va faire un folk painting coréen parce que les folk painting coréens, ils ont toujours une histoire.
C'est quoi
Donc,
un folk painting? C'est quoi?
folk painting, minhwa, c'est la peinture traditionnelle du peuple.
Ah, d'accord. Donc c'est un
Oui.
type de peinture très très local.
Très local, et d'ailleurs, c'est la France qui a beaucoup de peintures de minois, de peintures coréens folkloriques, voilà, à Paris, je pense. Oui.
D'accord, c'est la France qui a fait connaître ça aux Occidentaux, c'est ça?
Là-dessus, je ne suis pas trop sûre, mais ils ont quand même un grand storage, ils ont un grand. Comment est-ce qu'on dit, stock de peintures
Un
originaux
stock, oui, dans des musées,
auparavant.
j'imagine, non?
Voilà, donc auparavant, en fait, les Français qui sont venus en Corée, ils ont déjà apprécié les peintures folkloriques, le minhwa, et donc et ils ont apparemment oui, ramassé, je ne sais pas s'ils ont payé, mais bon, tous les peintures et apparemment en conteneur, ils ont envoyé les peintures traditionnelles en France. Donc là maintenant, il y a beaucoup de livres qui montrent des peintures traditionnelles coréennes qui sont dans des musées français. Bon,
D'accord.
et de retour, donc on a fait guided culture tours avec des professeurs. On a fait des lectures, des présentations avec nos sponsors qui étaient la librairie de Yongtan.
Mais les tours guidés, pardon, les tours guidés, c'était payant parce que j'imagine le professeur, lui, il fait pas ça gratuitement ou.
Donc, en fait, moi, j'ai négocié avec le professeur. J'ai dit, bon, on va faire un emploi quand même, genre de schedule. Et après, il me dit combien il a besoin de, je sais pas, de personnes minimum pour avoir quand même un genre d'une compensation minimum. Pour organiser un tour. Donc, par exemple, s'il y avait en dessous de 5 personnes, s'il n'était pas en bonne humeur, peut-être il a dit non, c'est pas assez, il me faut au moins 5 personnes avec un prix de, je sais pas, 15 000 won pour vraiment faire ce tour. Mais parfois, s'il était en bonne humeur, il a peut-être dit ouais, bon, je le fais aussi avec 3. Mais bien évidemment, s'il y avait 20, 25, c'était formidable. Donc, voilà.
D'accord, et
Ça
ça,
vient.
c'était des tours. Pardon, c'était des tours sur Suwon, ça. Hein. Toute l'activité est sur Suwon.
Ah non. Non, 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 pas du tout.
Ah bon?
Oui, parce que en fait, le volunteering était ici à Suwon, les power lectures étaient ici à Suwon Yongtong, la librairie Yongtong Dosogwan. Mais sinon, toutes les guided tours, ils étaient à Suwon, mais surtout à Séoul et les alentours, Yongin, surtout, oui, Seoul, Suwon et Yongin. Et après, on a aussi fait les voyages un peu leisure, juste pour avoir un peu de fun, pour aller au Boryeong Mat Festival ou faire du canoë-kayak ou aller à la plage, faire du ski. Donc, tous les intérêts que moi que j'avais, j'ai pensé quand même que les autres personnes, les autres étrangers, ils ont peut-être les mêmes intérêts. Et si on arrive à trouver, à regrouper assez de personnes, je peux tout organiser. Donc, j'ai élaboré ce projet. Donc, après, j'ai fait un emploi, un schedule pour toute l'année où on faisait un emploi genre chaque week-end, je faisais une activité. Souvent, le premier week-end, je faisais un leisure and adventure tour. Le deuxième samedi par mois, je faisais le volunteering. Le troisième samedi par mois, je faisais power lecture. Et le quatrième samedi par mois, je faisais le guided walking tour avec le professeur. Et donc, ça c'était de mars jusqu'en décembre. Et on a fait un grand, très grand Global Culture Festival, toujours en décembre pour célébrer l'année et regrouper tous nos meilleurs artistes, présentateurs à venir et de faire un festival ensemble avec nous et avec tous nos membres. Voilà, et on
D'accord.
faisait ça à Yongtong Library.
C'est beaucoup de boulot, ça. C'est un boulot d'agence de voyage, on dirait. Il y a de
Oui.
l'organisation, il y a de la logistique, il y a de l'événementiel. Tu faisais ça,
Voilà.
ou tu fais ça d'ailleurs bénévolement? Comment ça se passe?
En fait, j'ai entendu ça souvent parce qu'il y a quand même les agences genre Global Help Desk ou Global Village Center qui sont venues aussi assez, je pense, assez tard à Séoul. Qui m'ont quand même demandé si c'est mon business ou si c'est mon travail à plein temps ou quelque chose. Mais j'ai dit non, pardon, je dis là maintenant en anglais, c'est une one-woman show. C'est juste une femme, donc moi, qui organise tout. Et c'est basé sur, bah, c'était quasiment basé sur ma passion. Je faisais pas, c'était pas pour gagner quelque chose. Par contre, j'ai même investi beaucoup d'argent pour réaliser les choses parce que quand même j'avais une mission et j'avais une vision. Et après, on voit, je suis marketing. Il me faut une stratégie. Et je me suis dit, si je ne commence pas et je prends pas un risque, je vais pas pouvoir donner une opportunité à mes idées. Alors, au début, quand j'ai commencé à faire les power lectures, c'était moi-même qui a payé les présentateurs qui voulaient avoir beaucoup d'argent parce que c'était la première fois pour eux de venir faire une présentation à Yongtong, à Suwon, ce qui était loin pour eux. Ils sont tous venus de Séoul. Et en plus, pour une communauté qui s'appelle Hippie Korea, ils se sont dit, non, mais alors, c'est quoi ça? Alors, durant ce temps-là, en fait, j'ai payé moi-même pour les présentateurs. Il y a aussi pas mal de choses où j'ai payé moi-même juste pour réaliser cet événement et pour avoir une continuation. Parce que je me dis, si je ne fais pas une continuation, les gens, ils ne vont pas avoir confiance que notre communauté ou moi, je fais des événements, comment est-ce qu'on dit, professionnels. Alors, parfois, si on n'avait pas assez de gens aussi pour le guided tour, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais couvrir les frais pour le guide, pour le professeur, juste pour réaliser ce tour et maintenir une continuance d'événements.
Pour que ça se fasse, ouais, voilà, pour que les événements continuent et que tu crées un peu de l'audience et de la régularité. Et comment est-ce que Comment est-ce que tu faisais la promotion de ce... Comment est-ce que tu fais même la promotion de cette organisation?
Oui, alors on peut me voir partout sur social media, c'est surtout Facebook. J'ai créé Hippie Korea Page sur Facebook
Oui.
où je mets plutôt des news et des infos sur la Corée parce que bon, ça c'est le page pour maintenir un peu de distribution d'informations sur les nouvelles en Corée. Après, j'ai créé Hippie Korea Explorer and Travel Group. Ça, c'est en fait le groupe que j'ai créé uniquement pour postuler les événements. Donc, il n'y a rien d'autre, il n'y a que des événements que j'organise pour que les membres puissent cliquer sur joindre ou pas joindre, ou peut-être joindre, je ne sais pas. Et après, j'ai ouvert un compte sur Meetup. Je suis allée sur WordPress, blog. J'ai créé aussi un Naver Korean blog. Et bien évidemment, là maintenant, YouTube.
D'accord, oui, donc plein de réseaux sociaux et puis oui, YouTube, parce que tu m'as dit donc Hippie Korea, ça continue, hein, c'est pas arrêté, c'est en pause peut-être avec la
Oui,
COVID.
je dois dire quand même, on a eu quand même beaucoup de succès à la fin. J'étais pas mal dans les news et médias ou Arirang TV. On a reçu, on a en fait des compétitions de communautés pour avoir un petit peu de support par le gouvernement. Et en fait, j'ai réussi à avoir un petit peu de sponsoring par le gouvernement, là, le Gyeonggi-do-cheong et Suwon-si-cheong, le City Hall, pendant 3 ans. Donc, j'ai quand même essayé de faire des choses pour maintenir la régularité de nos activités comment est-ce qu'on dit, d'expandir.
D'expansion.
Donc, d'expansion, voilà, c'est ça. Et on avait beaucoup, beaucoup de possibilités, surtout en l'année dernière. Mais avec la pandémie, avec Corona, bien évidemment, on pouvait rien faire, rien. Donc,
Mais voilà, donc au moment
soudainement.
où ça commençait à bien décoller,
Oui.
la COVID est arrivée et a ruiné un peu tous tes efforts, en fait.
Voilà, c'est exactement ça.
Bon,
Ça a bien décollé,
ça.
et voilà, et c'était boum, et voilà,
Ouais.
c'était un arrêt total. Donc, normalement, janvier, février, mars, j'utilise ce temps-là à un peu arranger les informations, de faire un nouveau plan d'événements et tout. Mais bon, c'était l'année dernière en mars que la pandémie est arrivée ici en Corée et soudainement, tous les regroupements étaient interdits. Donc, tout était interdit, quoi. Donc,
Oui,
soudainement, il n'y avait rien.
Forcément, oui, ça a dû calmer l'activité. Justement, pourquoi tu dis janvier, février, mars sont les mois où tu ne fais pas d'activité? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir choisi ces mois-là?
Oui, alors, en général, je. Ici en Corée, je dirais, toutes les activités événementielles commencent tous vers la fin d'avril, je pense, mais vraiment le pic, c'est mai. À partir de mai, tous les événements culturels commencent, les festivals, les tours, les je ne sais pas quoi. Et donc, ça se déroule jusqu'en décembre, et en décembre, on fait tous les annual meetings, les reishik, les songnyeonhui, les year-end parties,
Oui.
et tout. Alors, jusqu'en décembre, on est busy. On fait peut-être un petit break en août à cause de l'été, ou peut-être en septembre pour le Chuseok, mais sinon, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses en Corée que ça s'ennuie jamais. Mais après le Nouvel An et Noël, c'est un peu tranquille parce que tout le gouvernement aussi, ils doivent peut-être planifier. Faire un tableau avec tous leurs expenses, non,
Leurs
expenses,
dépenses et dépenses.
dépenses, merci,
Ouais.
merci. Bon,
Justement.
voilà, et donc en général, il y a pas grand-chose qui se passe janvier, février, mars, il fait froid, donc c'est plutôt genre on fait des tours individuels de ski parfois, ou sinon c'est plutôt planifier les budgets, planifier les stratégies, c'est le temps de planification.
D'accord,
Alors,
c'est les grandes
moi,
vacances. C'est les grandes
non,
vacances et puis le moment de planifier.
c'est plutôt, on arrête les activités afin de planifier. Et donc, moi aussi, étant active chaque week-end à partir d'avril ou même mars, en fait, moi aussi, j'ai pris un genre de break pour quand même pouvoir me reposer un petit peu et quand même arranger mes dépenses et planifier à nouveau tous les événements pour l'année prochaine ou pour l'année et de faire des coopérations et des compétitions. Parce que toutes les compétitions pour avoir un genre de budget par le gouvernement, toutes les compétitions se passent toujours fin février, début mars. Donc, après les compétitions, la sélection, le budget est distribué autour d'avril. Et c'est pour cela que tous les événements recommencent vers mi-fin avril, mais plutôt vers mai, vers
D'accord,
le mois de mai.
je comprends.
Donc,
Donc là, effectivement, en 2020, tu avais fait ton break d'hiver, on va dire, le break hivernal. Et au moment de repartir, la COVID est arrivée et a tout foutu en l'air.
voilà, tout foutu en l'air.
D'accord. Donc tu m'as dit, effectivement, tu es aussi youtubeuse et influenceur ou influenceuse, je ne sais pas comment on dit.
Oui.
C'est ça, c'est une autre activité?
Bah, c'est suite à la situation avec la pandémie que je ne pouvais plus faire des événements physiquement. Je me suis dit, il faut quand même que je continue à faire quelque chose pour maintenir une relation avec mes membres. Et je sais qu'une fois que la pandémie est assez, je sais pas, oui, quand on arrive à gérer la pandémie, on va doucement recommencer les activités, mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais je veux quand même pas rester toute tranquille et perdre tous mes membres. Je veux quand même garder une connexion avec mes membres qui sont peut-être déjà retournés dans leur pays, qui ont déjà quitté la Corée, ou peut-être d'autres qui ont tellement peur qu'ils restent à la maison toute la journée. Je voulais quand même garder cette connexion. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, ah, je veux faire YouTube. Donc, bon, en fait, c'est en fait l'année dernière que j'ai commencé à faire mon YouTube à moi, qu'on peut toujours trouver sur Hippie Korea, mais là maintenant, c'est moi qui montre la Corée de mes yeux.
C'est toi le
Alors,
guide, c'est toi le guide, oui. Parce que
c'est
juste une petite question, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que oui, ton audience, ce sont essentiellement des étrangers et ta communication essentiellement en anglais, c'est correct?
Ma communication est surtout à 95% en anglais. Parfois, s'il y a des événements et je veux avoir des Coréens, une audience coréenne, je vais traduire les posters ou peut-être mettre un sous-titre sur le YouTube en coréen. Voilà, mais sinon, mon audience, en fait, là, pour le moment, il y a la plupart, aussi peut-être 90%, ce sont des étrangers, 10% peut-être des Coréens, mais je veux quand même expandir. Et bah, en fait, augmenter le taux des Coréens dans mon réseau, parce que je pense toujours faire quelque chose uniquement pour les étrangers, ça, c'est pas mon but. Mon but est de faire quelque chose intégrer plutôt de créer une plateforme où les étrangers ou les globaux, je veux dire les globals, les étrangers et les Coréens, les locaux, peuvent se rencontrer et expérimenter quelque chose ensemble afin de communiquer, de faire des relations et de faire des amis. C'était ça le but ultime que j'avais toujours avec Happy Korea.
D'accord. C'est marrant
Donc,
parce que finalement, tu arrives à mettre les Coréens en minorité, finalement, ce qui est un petit peu la revanche de ce que tu décrivais tout à l'heure.
ben, oui, mais c'est le problème à cause de la langue, parce que quand je fais toute la publicité en anglais, les Coréens pensent que ils sont pas invités, mais c'est pas le cas. C'est mon problème que j'arrive pas à écrire une genre de publicité d'un événement en coréen moi-même. Donc, il faut toujours que je demande à un Coréen ou à une amie coréenne à m'aider à traduire les événements. Mais comme j'ai dit, mon intention est toujours de promouvoir mes activités, mes événements et aussi mon YouTube envers les Coréens pour que les Coréens puissent comprendre quel challenge les étrangers ont quand ils travaillent et vivent ici en Corée.
Ouais,
Et
ouais.
que les Coréens, ils ne doivent pas avoir peur des étrangers parce que, bon, c'est vrai, les étrangers ici, la plupart, ils sont tous d'une école supérieure. Je veux dire, ils ont quand même une carrière professionnelle derrière eux. Ou ce sont des étudiants ou des spouses, des épouses et tout. Donc, ils ont tous un intérêt pour la Corée. Ils ont tous un intérêt d'avoir des amis coréens, mais c'est très, très difficile de faire des amis coréens quand on n'a pas d'activité ensemble. Et moi, je veux vraiment créer une opportunité de rencontre avec Happy Korea. Voilà.
D'accord, très bien. Et sur YouTube, la chaîne, quel est le contenu? Alors, tu parlais de visite.
Oui, alors sur YouTube, comme j'ai dit, parce que je ne peux plus faire des événements, donc auparavant, jusqu'en 2019, on voit beaucoup d'événements que j'ai faits avec Happy Korea. Donc, on peut voir tous les Global Culture Festival, on peut voir les présentations culturelles que j'ai enregistrées et après téléchargées sur YouTube. Mais à partir de l'année dernière, mars ou peut-être avril, j'ai commencé à faire des travel vlogs de la Corée. Parce que moi-même, ou moi avec une copine, et sa voiture, on se promenait en Corée pour vraiment découvrir les coins qui sont en dehors des sites hyper touristiques. Parce
Oui.
que je me suis dit, c'est vrai que la plupart des gens, ils s'intéressent pour le K-pop, le kimchi, et après, ils voient que les choses assez touristiques, c'est toujours la même chose. Et je me suis dit, je veux quand même montrer une autre Corée, une Corée plus authentique, plus vraie, authentique et off the beaten track. Je ne sais pas comment on dit ça en français, off the
Oui,
beaten track.
on dit en dehors des sentiers battus, oui.
En dehors des sorties battues.
Oui, c'est toujours plus compliqué en français, mais oui, en dehors des sentiers battus. Mais remarque, littéralement, ça se rapproche, hein, les deux. D'accord, non, mais très bien. Et donc oui, donc tu vas essayer de montrer des endroits où les gens ne vont pas forcément et de faire découvrir un peu. C'est pas forcément lié à Suwon, hein, c'est sur toute la Corée, ça.
Oh, oui. C'est pas vraiment Suwon, mais bien évidemment, il y a pas mal de contenu sur Suwon où je présente des différents coins, des petits cafés, des tea houses que j'adore. Je suis aussi Suwon Hwasong Fortress Honorary Publicity Ambassador. Alors, je connais plusieurs coins ici à Suwon qui sont aussi en dehors des pas.
En dehors des sentiers battus. Oui,
Voilà.
d'accord.
Oh, c'était un peu difficile. Oui, alors, en fait, moi, je suis quand même spécialiste en plusieurs domaines. Je suis Suwon Hwasong Fortress Honorary Publicity Ambassador. Je suis Gangnam Gu Honorary Publicity Ambassador. Je suis maître de thé de Banyaro Institute for the Korean Way of Tea. Je suis aussi diplômée de Minhwa Folk Painting Academy, Kahwe Minhwa Academy. Voilà, et donc j'ai d'abord essayé d'apprendre, d'avoir des insights dans la culture coréenne, d'abord pour que je puisse comprendre ce qui se passe ou ce qui est spécial dans ce côté de culture, la peinture ou le thé ou n'importe. Et après avoir reçu les diplômes ou les certificats, je pensais que je suis mieux capable d'expliquer la beauté de cette culture envers les étrangers, parce que j'ai quand même appris des insights sur le folk painting ou oui, le thé, et que je puisse quand même donner une autre vue et un accès à la culture envers les étrangers. Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu as atteint ton objectif, donc qui était aussi de mieux comprendre la psychologie coréenne et les relations coréens-étrangers?
Oui, bah, en fait, là maintenant, les Coréens, ils me disent, oh là là, tu es plus expert de la Corée ou tu connais la Corée mieux que nous. Mais bon, c'est...
Géographiquement, mais culturellement aussi?
Géographiquement, culturellement, ils disent ça aussi parce que j'ai tellement de diplômes et de certificats qui étaient vraiment durs à être achevés, qui sont très spécifiques. Mais je veux dire, je me suis spécialisée dans des domaines très spécifiques, mais pas dans le domaine général. Je veux dire, j'ai pas vécu avec mes tantes ou mes cousins, cousines, cousins coréens ici en Corée. Si j'avais eu la possibilité de vivre avec ma famille coréenne ici, j'aurais eu une autre compréhension de la culture coréenne. J'aurais pu comprendre la situation familiale, comment ça se passe, les rituels avec le Chesa, le Anchistos Memorial, les coutumes en général, avec le respect envers les membres de famille et tout. Mais là-dessus, par exemple, vu que je vis toute seule et je ne vis pas avec ma famille coréenne ici, donc je pense qu'il y a quand même assez de choses que je ne pouvais pas vraiment apprendre ou je n'ai pas autant de savoir que, bien évidemment, les Coréens. Oui, c'est clair.
D'accord. Mais donc tu as une famille coréenne ou c'est hypothétique? Ou tu as
Non,
vraiment une...
non,
Non?
non.
D'accord.
Oh oui, parce que ma mère, elle est coréenne, donc j'ai toutes mes tantes, mes oncles, mes cousines qui habitent en Corée, mais ils habitent tous direction Songdo, Incheon. Et je veux dire, moi, je travaille toute la semaine ici à Suwon et durant le week-end, j'ai fait ma communauté, donc j'avais pas beaucoup de temps et je veux dire, il n'y avait pas aussi, je pense, autant d'intérêt de ma famille envers moi parce que quand même, avec la communication, c'était difficile, tout le monde est busy et donc bah, ils ont leur vie à eux. Et donc, moi, j'avais ma vie à moi. Donc, voilà. Mais
D'accord, il n'y a pas de
oui.
lien, il n'y a pas de lien spécifique qui se sont créés, oui, je comprends. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour de tes activités? Ça en fait déjà beaucoup pour une seule personne. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Non, je pense, c'est carrément ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bon. Bien évidemment, je n'ai pas tout de suite commencé avec la communauté Hippie Korea. Ça s'est développé peu à peu.
Oui.
Donc, en 2004, quand j'étais près de la Chaebol, je me sentais seule, je ne me sentais pas compris. J'avais besoin d'un network, mais je ne voyais pas d'autres étrangers, surtout parce qu'on est 35 000 personnes qui travaillent dans le même plateforme de la boîte. Digital City. Et donc, bah, d'abord, j'ai essayé quand même de trouver des amis par des cours de langue coréen. Et donc, j'ai commencé d'abord avec quatre amis à faire des rencontres culturelles ou pour faire la fête juste avec mes quatre, cinq amis. Et après, ça a expandi. J'ai envoyé un newsletter et avec le newsletter, je suis allée sur social media et après, je l'ai enregistré la communauté en tant que non-profit et tout. Mais entre-temps, j'ai fait des choses auprès de Samsung. Ça veut dire, je pense que c'était en 2011, j'ai créé les premiers clubs d'employés, les. Community and Clubs, Employee Clubs auprès de Samsung Electronics qui était basé sur apprendre la culture traditionnelle. Donc, je pense que j'étais la seule étrangère auprès de Samsung qui a ouvert un club de cérémonie de thé, un club de Minhwa Folk Painting et un club de couture traditionnelle pour les étrangers et les Coréens. Donc, à cause de la création de ces clubs culturels qui étaient focalisés sur la culture coréenne, et c'était la première fois auprès de Samsung d'avoir des clubs culturels qui étaient basés sur la culture traditionnelle auprès de Samsung. Donc, ils m'ont en fait invité à rencontrer le chairman à l'époque, qui était Lee Kuan-hee, évidemment. Et on a en fait, sous le nom en fait, sous le nom des étrangers, des employés étrangers, on a préparé des cadeaux pour le chairman à l'époque, pour Lee Kuan-hee, et on l'a offert envers lui. C'était des Lucky Pouches, Book to Money. Qu'on a préparé pour lui et après on lui a donné ça. Donc ça, c'était dans tous les news de ma boîte. Et après, donc, j'étais quasiment dans tous les médias de mon entreprise. J'étais journaliste interne avec ma propre column, journalist column.
D'accord.
Oui, voilà.
Oui,
Donc,
donc effectivement, tu dois être très très connu à Samsung là, et un peu ailleurs aussi d'ailleurs, oui, effectivement, au vu de toutes ces activités. Mais
mais
juste,
je dois
oui.
dire aussi, ça dépend hein, parce qu'il y a des hauts et des bas. Parce qu'auparavant, peut-être de 2010 à 2013, oui, c'est vrai que les gens, quand ils m'ont vu promener dans ma boîte, ils ont dit, ouh, c'est celle-là, là, l'étrangère là, qui était à la télé de Samsung et tout. Mais je veux dire, en Corée, on dit toujours comment est-ce qu'on dit, un trou, c'est peut-être un trou, un nail that sticks out needs to be hammered down.
Ah oui,
Comment
un clou, tu veux dire. Oui. Mais
un clou,
un clou qui dépasse,
voilà.
il faut le faire rentrer.
Ah oui,
Le
un
clou
clou
qui
qui dépasse.
dépasse, il faut le faire rentrer. Donc, tu étais le
On
clou qui
rentre.
dépasse chez Samsung.
Absolument. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait assez d'opportunités de me faire, je ne sais pas, rentrer n'importe où en termes de clous. Et voilà, donc j'étais un peu trop dans tous les médias, internes et externes aussi. C'était vraiment trop, trop, trop. Et là, par exemple, il faut aussi comprendre la culture coréenne là-dessus, pourquoi les choses, ils arrivent comme ça, que voilà, on est confronté plutôt avec des difficultés qu'avec des opportunités à la fin. Et voilà. Et sinon, je dois quand même dire, et là aussi, c'est une chose où je suis même assez contente, je dirais. Quand j'étais dans les ressources humaines et j'étais en charge d'entraînement des employés étrangers, il y avait quand même un groupe assez grand de musulmanes, c'est ça? Musulmans?
Oui,
Musulmanes?
des femmes musulmanes, des musulmanes,
Non, non,
oui.
disons musulmanes. Dans le groupe des employés étrangers. Et je me suis quand même pensé, j'ai quand même pensé, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu dois faire la prière durant les heures de travail? Où est-ce qu'ils vont? Alors, en fait, j'ai ramassé les opinions de mes amis musulmanes qui étaient donc embauchés auprès de Samsung Electronics. Et après, j'ai négocié avec les ressources humaines afin de créer un Muslim prayer room.
Une salle de prière, oui, une salle de
Voilà.
prière. D'accord, ah oui. Bah c'est une autre façon de s'exposer, ça aussi, d'ailleurs, hein.
Oui, mais ça, bien évidemment, ça c'était assez, ça c'était pas très publié parce que ça c'était vraiment, bon, ils ont créé la salle de prière, mais c'est quelque chose qui n'était jamais communiqué. C'est en
Oui.
fait les gens qui parlent de bouche à l'oreille pour dire là dans ce bâtiment, cette couloir, on trouve la salle de prière. Voilà, mais. C'est quand même, je pense, ça c'est un pas de globalisation. Et là-dessus, je dois dire quand même, durant cette époque-là, j'ai initié quand même des mouvements dans notre entreprise qui l'ont fait plus global, je dirais.
Et
Donc,
plus humaine aussi, non?
plus. Ça c'est une autre chose.
Oui, ben, appelons un chat, c'est vrai que mais c'est vrai, c'est un peu le problème de toutes les grandes entreprises, hein, c'est que elles ont tendance un peu à déshumaniser l'individu, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, non? Déshumaniser.
Déshumaniser. Je pense
Dehumanize, non? Je sais pas comment on dit, oui, je pense.
déshumaniser. Je pense quand même la culture dans l'entreprise était totalement déhumanisée de 2004 jusqu'en 2012-13. Mais à
Ouais.
partir de ce moment-là, quand même, il y avait un changement auprès de la boîte. Et peu à peu, à peu, à peu, ça s'est humanisé. Et c'est pour cela que là, maintenant, on a tous ces bénéfices. Comme de ne pas faire des heures supplémentaires autant qu'avant, d'avoir les flexible time. Voilà, donc ce sont tous des choses. Aussi le sabbatical leave que j'ai fait en 2017, ce sont tous des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer en 2004 jusqu'en 2010, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de changements qui se sont faits et ils sont très positifs.
Oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Bah, on va terminer sur Samsung, sur cette note très positive, parce que c'est tant mieux. Quelques questions pour terminer. Quel est le truc qui te fait rester en Corée, le truc qui te manquerait terriblement si tu devais quitter la Corée un jour?
Oh, ça c'est une question très profonde. Auparavant, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, je voulais appeler ça ma dernière année. Je voulais juste rentrer, 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 rentrer. Et Je pense que c'est l'année dernière où j'ai eu le temps de me reposer et de réflexionner sur ma vie et la mission que j'avais, le but que j'avais avec cette communauté, le but que j'avais avec cette vie que j'ai menée à côté de mon travail, de gérer une communauté à ce niveau-là. Donc, j'avais pas de vie privée pendant presque 10 ans. J'avais pas assez de temps pour dormir, j'avais pas assez de temps de faire du sport ou n'importe. Donc, l'année dernière, j'avais eu pas mal de possibilités de réfléchir et réflexionner sur ma vie privée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pendant 17 ans, je me sentais jamais à la maison ici en Corée. Je voulais tout le temps fuir, courir et fuir, mais je voulais jamais rester. Et pourtant, là maintenant, il y a 17 ans qui se sont passés et j'ai chaque année juste passé 2 semaines en Allemagne. Donc, en fait, je ne comprends même plus ce qui se passe en Allemagne, je dirais. Donc, là maintenant, je comprends que la vie en Corée est quand même très, très, très confortable. Je vois mes amis qui ont quitté la Corée il y a 3-4 ans, qui sont rentrés en Europe et qui, là maintenant, veulent tous revenir en Corée. Et ce sont des amis qui ont auparavant travaillé auprès de Samsung et, comme j'ai dit, qui ont quitté en 2016, 17, 18, qui sont rentrés en Pologne, en Belgique ou je ne sais pas où, et qui veulent tous revenir en Corée. Je me suis dit quand même, c'est intéressant que ces gens qui sont des Européens, qui retournent là maintenant en Europe, qui veulent après tout retourner en Corée, où ils savent que quand même la culture de travail n'est pas aussi bien peut-être qu'en Europe, mais quand même la vie apparemment a quelque chose pour se jouir de la vie en Corée,
D'accord,
peut-être?
donc on n'est pas si mal en Corée finalement, et c'est ta maison. Tu es sur quel type de visa d'ailleurs?
parce que je suis moitié coréenne, je suis F4, Ethnical Korean Visa, ou en Corée, c'est TB, Kyopo, Dongpo,
Oui.
quelque chose comme ça.
D'accord, donc tu as
Voilà.
la sécurité du visa et du fait de ton emploi, la sécurité du travail aussi. Ce qui est, on m'a dit que ce n'était pas très commun, les contrats à durée indéterminée pour les étrangers. Est-ce que c'est parce que tu as le visa F que tu as pu l'avoir, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui les ont, qui ont des contrats à durée indéterminée, d'autres étrangers?
Oui, c'est ça, tu sais très bien, ça m'étonne. Oui,
Je me suis
alors,
renseigné.
bien. Oui, j'ai un contrat assez exceptionnel. Parfois, en fait, il y avait de temps en temps, peut-être ici et là, un ou deux étrangers qui ont eu le même contrat indéterminé. Et donc, auparavant, en 2004, Samsung a eu une genre de campagne, pas campagne, de campaign, un projet de recruter des étrangers qui ont quand même un genre de background coréen, parce qu'en 2004, ils se sont dit, c'est peut-être plus facile. De prendre des gens qui sont des Kyopos, qui ont quand même une certaine connaissance de la langue ou de la culture, qui peuvent mieux s'adapter à la vie, au travail et la vie en Corée, et qui ont quand même la connaissance de la langue et de la culture à l'étranger. Donc, durant
D'accord.
ce temps, ils ont surtout, en fait, cherché pour des gens d'un background coréen, et durant ce temps, moi, vu que j'étais moitié coréenne et allemande, je suis tombée dans ce créneau.
D'accord, le bon endroit au bon moment.
Oui.
Je reviens à mes questions. Donc, celle-là va être plus difficile vu ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, mais je la pose quand même. Quel est le truc qui te donne envie de fuir la Corée et de rentrer directement à Berlin?
Oh.
Il doit y en avoir, non?
Oui, alors, là, comme j'ai dit, là maintenant, j'ai quand même passé presque 20 ans à l'étranger. J'ai fait mes études en France, c'était de 2000 à 2002. Après, je suis venue en Corée pour faire un stage à Busan. Et après, donc, 2004, j'ai commencé, j'étais embauchée auprès de Samsung. Et donc, depuis tout ce temps, j'étais quasiment presque 20 ans à l'étranger et la plupart en Corée. J'ai mes parents, j'ai tous mes amis encore à Berlin et aussi en France. Je fais tout pour garder un bon contact avec mes amis d'école ou de l'université parce que je me dis toujours, si je perds mes amis, je ne peux plus appeler l'Allemagne ou l'Europe ma maison parce que si je n'ai plus d'amis, ce n'est plus ma maison. Alors, j'ai toujours
Oui.
essayé de garder un très bon contact avec tous mes amis français aussi de l'école de Pau et de mon école à Berlin et de mon université à Berlin et tout. Et donc, je me dis, oui, c'est vrai que je pourrais quand même retourner à Berlin tout de suite si je veux, parce que j'ai aussi mon appartement à Berlin. Mais après, je me dis, qu'est-ce que je peux faire à Berlin? Cela fait là maintenant 20 ans que j'ai vécu à l'étranger. Peut-être j'ai déjà des problèmes à parler et à comprendre la culture allemande, la façon de lifestyle individualiste allemande.
Mais
Et par
surtout,
contre, ici, là, maintenant.
tu réponds pas à ma question. On voit que tu es devenue ambassadrice, hein, de ambassadrice du pays parce que tu n'as pas répondu à la question. Mais donc j'en conclus qu'il n'y a rien qui t'agace particulièrement au pays du matin calme.
Non, mais parce que, comme j'ai dit, c'est 17 ans, j'étais en condition de clash culturel. Et j'ai détesté ma vie ici en Corée. J'ai détesté ma vie d'emploi. Et donc, en fait, pendant, je pense, 8 ans, j'ai bataillé. Mentalement avec ma vie ici en Corée. Donc,
Donc là,
tout.
tu as tout accepté maintenant. Maintenant, tout est, tout est, tout est, tout est bien. Bon, bah, tant mieux.
Non, je ne dirais pas que tout est bien, mais par contre, je dois dire, 8 ans de bataille interne avec moi, de ne pas pouvoir comprendre cette culture, de détester tous ces gens parce que je ne comprends rien. Après, je pense que l'énergie est finie. Et donc, moi, à un certain moment, j'ai peut-être juste, comment est-ce qu'on dit, gave up.
Mais j'allais répondre avant même que tu poses la question. Oui, abandonner, abandonner.
J'ai abandonné,
Tu
voilà,
as
c'est
abandonné.
ça. J'ai abandonné et après, je me suis dit, arrête de batailler, arrête de comprendre. Simply go with the flow et regarde. Et vu que moi, je suis en minorité ici, n'importe si c'est bon ou pas bon, bien ou pas bien, correct ou pas correct, c'est peu importe parce que j'ai compris, moi, je suis toujours en minorité, donc j'ai toujours tort. Oui, voilà, c'est
Donc
ça.
je fais avec. D'accord.
Voilà.
Dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise? Alors, toi, ça va remonter à longtemps maintenant, mais avant que tu viennes en Corée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise? Parce que ça t'aurait fait gagner du temps, ou ça t'aurait facilité de la vie de le savoir. Sur la Corée, évidemment.
Oh, je dis toujours, les gens qui ont vraiment intérêt de venir vivre ou travailler en Corée, d'abord de lire des livres sur la culture coréenne, la culture de travail et tout. Parce que là maintenant, il y a vraiment beaucoup de livres qui expliquent la culture, les coutumes, ce qui se passe dans un heishik et tout. Ils expliquent tout ça. Alors, il faut vraiment d'abord lire toutes ces ressources qui sont déjà valables avant de venir en Corée. Il faut vraiment rechercher bien sur des portaux, social media, des news, surtout voir tous les commentaires par les étrangers qui sont déjà ici en Corée, comme par exemple sur Facebook, il y a assez de communautés où les étrangers ne font que se plaindre de leurs emplois, de leurs expériences ici en Corée. Donc, il faut bien rechercher sur les conditions de travail et les, toutes les conditions ici en Corée avant de venir. Voilà.
D'accord. Donc faire ses homework. Si on est marié à une Coréenne ou à un Coréen, est-ce qu'on est dispensé de lecture ou pas? Parce que moi, j'ai rien lu. Hein. Je te le dis tout de suite, j'ai rien lu. Mais bon, moi, j'apprends grâce au podcast, remarque.
Non,
Mais
non,
c'est trop
non,
tard, je
non.
suis déjà là.
Je dois dire, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas mariée, donc je ne peux pas dire, mais je dois dire, quand j'avais des boyfriends, des petits copains coréens, et je pensais que les Coréens, les petits boyfriends là, peuvent m'introduire à la culture coréenne, mais non, hein. Parce que, bon, peut-être ils n'ont pas la connaissance comment expliquer les coutumes ou la manière ou la structure sociale, je ne sais pas, le comportement social. Ils ont pas envie de me tout expliquer comment faire ceci et cela. Et je pense, si on a une femme ou un mari coréen, c'est peut-être la même chose. On vit ensemble en couple, mais après, expliquer comment survivre en Corée, dans la société, comment survivre surtout dans un boulot quand on est tout seul. Parce que bon, peut-être toi, chez toi, tu as ta femme qui s'occupe des enfants et tout. Donc, tu comprends ce que tu dois faire à la maison avec les règles de la maison, mais après, quand tu te vas dans un travail, tu es là tout seul, entouré par des hommes, que des hommes. Donc, comment est-ce que la pauvre femme à la maison puisse te préparer pour la vie en compagnie si elle n'a jamais travaillé dans une boîte hardcore où il n'y a que des hommes? Non.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi, hein, quand même, hein, même si ça reste une société un peu patriarcale. Mais en l'occurrence, la mienne travaille. Mais effectivement, tu as raison. Non, non, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas te préparer à tout. Mais c'est vrai que tu apprends quand même, effectivement, de vivre avec quelqu'un d'une autre culture. Tu apprends un peu sur leur culture. Mais c'est vrai que rien ne remplace le terrain, de toute façon. Rien n'en passe le terrain. Écoute, merci Sonia pour ton temps et pour toute cette discussion. C'était très intéressant. Pour terminer, est-ce que tu as une annonce, un projet, quelque chose que tu veux partager avec notre audience?
Merci beaucoup, Bart, pour cette opportunité de présenter un petit peu sur ma vie ici en Corée, mes expériences, my hardship et
Ben,
mes
merci à
challenges.
toi, merci à toi.
Merci beaucoup. Bien évidemment, j'aimerais bien promouvoir mon YouTube channel Hippie Korea et aussi, si vous avez le temps de regarder sur Facebook, vous pouvez partout chercher juste pour Hippie Korea. On est aussi sur Instagram et surtout là maintenant, YouTube. Et vous allez pouvoir voir la Corée off the beaten track. Through my eyes. Voilà.
D'accord, très bien. Je mettrai les liens dans la description du podcast
Merci
de
beaucoup.
Hippie Korea. Donc, tu disais YouTube, Facebook, Instagram, un site web peut-être ou pas? Non?
Ah, pas encore.
Non, d'accord.
J'ai pas réussi à le faire.
D'accord. Non, mais il n'y en a peut-être pas besoin parce que c'est vrai que si on sait déjà où te trouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube,
Merci.
d'accord, ça marche. Eh bien, merci
Merci
beaucoup. Merci beaucoup,
beaucoup.
Sonia, et puis à très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, Je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!